Allez, toc toc, badaboum, c'est parti, c'est nous, c'est qui, c'est...
Sport épique.
Épique en ce dimanche matin, et on va se congratuler bien fort, messieurs,
oui, oui.
Puisque nous avons remporté aux antennes d'or de l'émission,
ouais.
Nous avons remporté tout simplement le prix,
meilleur des trophées,
le meilleur, ouais, des trophées, la, ouais, meilleure, ouais, équipe,
oh là,
la meilleure,
là, là,
équipe,
là, là, là,
les gars. Et là, c'est, je, bon, vous remercie,
ah ouais,
je vous remercie, ouais, parce que c'était le prix qu'on convoitait,
mais oui, secrètement, là,
c'est celui-là qu'on allait chercher,
ouais,
on l'a eu, on est heureux, c'est nous les meilleurs,
complètement,
les,
complètement,
boss de l'autre radio,
la meilleure épique.
Vous êtes, ouais, si amusant, Gilles Boulaire.
Ouais, déjà... Je suis fier aussi.
Va,
oui, bonjour à tous.
On va bien rire. Il y a, ah, évidemment mes éternels Lionel et Fred. Salut,
oui,
les gars.
Oui, bonjour,
salut,
à tous.
Gars.
Bonjour à et tous.
Toutes. On est bien, on est tous fiers. Et Gilles Beau qui revient en intermittent. Mais il est là, il est là.
Ouais, il a des choses à dire,
et
sûrement.
Ça, bah, on sait que le public le réclame.
Bah, il veut
ça,
intégrer la Dream Team, quoi.
Ouais.
Donc,
ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. C'est une émission raccourcie, les gars. C'est une émission raccourcie. Puisque derrière, il y a
ça
du...
me rappelle quelqu'un, mais bon,
il y a du direct, donc faut qu'on soit bon, faut,
ouais,
qu'on soit très bon, faut qu'on parle Urban Trail,
oh,
la nouvelle équipe, le nouveau format,
ouais,
faut qu'on parle un peu de la Coupe du Monde, Coupe d'Europe d'escalade qui va avoir lieu à Mayenne dans peu de temps, on aura du,
ah,
monde,
oui,
normalement au téléphone, et faut qu'on parle un peu Ligue des Champions,
ah,
bien,
oui,
entendu, c'est un petit sommaire.
D'accord,
c'est un petit sommaire.
On fait semblant de découvrir le programme pour les auditeurs.
Oh,
là-bas, c'est
jamais...
Évidemment, c'est préparé.
C'est jamais bien, de toute façon. Donc, messieurs, là, les rois des bénévoles là, de l'Urban sur ces dernières années, vous ne l'avez pas fait, malheureusement.
Non.
Mais est-ce que vous comptez quand même, parce que là, on est en léger différé aujourd'hui, est-ce que vous comptez y aller, est-ce que vous comptez quand même vivre cette ambiance, Lionel? Arrête de faire croire à tout le monde qu'on est en direct, c'est pas vrai.
Bon, d'accord.
Nous, on n'est pas obligé de faire semblant entre nous, déjà.
Non. On avait révisé l'imparfait, le... je sais plus.
J'ai été faire un tour.
Non, voilà, j'avais un sanglier sur le feu. J'ai décidé de faire l'impasse sur cette première. C'est dommage parce que j'étais quand même curieux.
Ah,
j'ai,
d'accord,
j'ai
tu
des,
fais...
j'ai, voilà, je pars en week-end.
Tu fais l'impasse. Tu fais l'impasse.
Voilà.
Ok, Fred.
Bah moi s'il n'y a pas Lionel, tu sais, moi je suis très collectif.
Ça c'est pas faux.
Toujours, ça... donc puis moi j'ai besoin de repères. Donc je suis un mec qui a besoin de repères, donc j'avais l'ancienne équipe, on avait un fonctionnement et c'est vrai que mais je souhaite le meilleur hein, mais c'est vrai que il est peut-être le temps de passer aussi même pour les bénévoles à d'autres équipes, à d'autres voilà.
Et bon, on verra les ressentis, je vous dis, d'avant-course d'un coureur. Parce que moi, je me demande toujours, est-ce que c'est la panique avant la course? Est-ce que c'est l'envie d'y aller? Est-ce que c'est l'attente?
Ouais,
comment,
ouais,
vous êtes-vous avant une,
moi,
course?
Moi, personnellement, je me souviens des premiers Urban Trail où il y avait une petite panique parce qu'on avait une image d'une course très, très dure. Technique et très dure, très éprouvante. Je me souviens de certains qui avaient comme commentaire, moi l'objectif c'est de terminer. Bon,
ouais,
maintenant
ouais,
on se retrouve avec quand même pas mal de coureurs qui savent faire ce genre d'épreuve.
Après, moi si je devais être coureur, l'appréhension que j'aurais c'est peut-être lié au temps. Parce que c'est pas,
ah,
c'est pas la même épreuve si le temps est sec, clément,
ouais,
ou si t'es sous la flotte. Parce que bah, tout devient beaucoup plus difficile.
Ouais. Les pavés, les escaliers.
Bah voilà.
Mais j'ai l'impression que pour l'instant, il y a toujours eu de la chance. Justement,
bah ouais,
sur
mais
cette,
justement,
sur
justement
le
léger différé là.
Qu'est-ce qu'ils annoncent?
Bah, je crois qu'ils annoncent un peu de pluie. Hein, donc,
ah bon,
c'est ça qui me. Moi, honnêtement, en tant que coureur, c'est ça qui me poserait,
voilà,
problème. Parce que c'est vraiment le type d'épreuve où c'est pas le même ressenti si tu dois avoir l'impression de marcher sur des œufs et tout. Après, c'est peut-être une fausse impression, une fausse. Moi je suis.
Oui, parce que Fred, on a connu quand même des éditions,
oui,
ouais, humides. Voilà,
peu, Lionel.
Peu,
franchement,
c'est vrai.
Pour du début octobre, on a quand même de la chance.
Ouais. J'espère qu'il voilà, y aura bien. Du spectacle en tout
là,
cas.
Là, on verra bien. J'espère qu'on va avoir Guilherme avec nous, qui le court, qui a été d'accord. un des très bons ces derniers temps. On va voir ça tout de suite, messieurs les joueurs de la technique. Attention. Et vous, ne, vous êtes pas, vous n'avez pas cherché à vous inscrire, vous n'avez pas cherché à vous.
Bah, on n'a pas été sollicité.
Non, tu parles de bénévolat.
Ah, tu veux dire, que, oui,
ah, tu veux dire pour les Dossard Elite ouais. Bah, non, non, non. Bizarrement, ils m'ont pas appelé.
Par contre, on a eu des sollicitations indirectes pour être remettre le couvert dans, en tant que bénévole. Ouais.
Ah bon
ouais. Ah, vous avez eu ouais, la
oui, de l'ancienne ouais, équipe qui a fait passer le message.
Ah bon
oui, mais c'est vrai que. Bon, je dis pas non, hein, Fred. Hein,
mmh. Oui, mais si, on se tourne la réflexion.
Évidemment, évidemment. Et là, on a peut-être Guilherme. Alors, salut Guilherme.
Salut Benoît.
Ah, il est avec nous, le grand Guilherme. Extra.
Bonjour Guilherme.
Ouais,
bravo.
Ouais, ouais. Vous pouvez applaudir parce que le mec, attention, c'est du top 100, voire même du top 70 quasiment tous les ans. Donc Guilherme.
Là, tu parles pas de son poids, là. On est bien d'accord.
Là, on a un très très bon coureur. Est-ce que t'es sur la course donc cette année encore, Guilherme, demain soir là?
Tout à fait, Benoît.
Ouais,
tu es présent sur la ligne de départ demain soir.
T'y seras. Est-ce que tu as un dossard protégé?
Protégé de la pluie, j'espère, parce qu'apparemment la météo est prévue pluvieuse.
Fred en parlait.
Ah, ouais. Mais c'est pas des conneries lorsque vous dites.
Ah non, jamais.
Très fort, Fred.
Ouais, toujours.
Ouais. Bon, et alors moi, les questions, Guilherme, c'était cette avant-course, parce que je rappelle, on est en léger différé. Cette avant-course, t'es dans quel état d'esprit? Toi, t'es anxieux, t'attends vraiment l'événement, t'as vraiment envie de. C'est un moment pour toi, t'es comment là dans l'état d'esprit là?
Eh ben, je suis plutôt pressé d'y être.
Ah ouais?
C'est un événement auquel j'ai participé depuis 2016.
Oh là là!
Ah, ouais.
L'année où j'étais blessé. Donc c'est plutôt un événement qu'on coche sur le calendrier, je dirais de mon côté. Donc plutôt pressé.
Et justement, tu coches dans le calendrier, est-ce que pour toi c'est un absolu dans ta saison ou là c'est juste une préparation pour autre chose ou est-ce que c'est vraiment oui, l'événement phare de ta saison course à pied toi?
Eh ben, je dirais un peu tout ça, ça dépend un peu du contexte de la saison. Là, moi je suis en train de préparer le marathon de la Baule qui a lieu début novembre.
Ah, costaud.
Ça s'inscrira dans le cadre de la préparation. Oh. J'ai couru juste comme ça pour le plaisir, sans rien préparer derrière. Et je l'ai déjà vécu aussi en préparation, alors que je faisais des trails un peu plus longs. Mais l'idée, c'est d'être au départ, quoi qu'il arrive.
Ah, ça c'est
bien,
beau.
C'est bien.
Ça c'est beau, ça c'est beau. Alors pour le marathon de la Baule, je suis pas sûr que ce soit la meilleure préparation parce que ça doit être assez plat, hein, la Baule. C'est peut-être ça que tu voulais dire.
Oui, c'est un peu ça que je voulais évoquer parce que c'est vrai que techniquement les urban trails, comme beaucoup d'urban trails, ça se prépare parce que techniquement trouver des escaliers, trouver des rues en pente, des couloirs très étroits, c'est très spécifique. Est-ce que toi, Guilherme, justement, alors tu es pas la Valois, je crois, tu arrives à trouver des terrains d'entraînement pour ça?
Eh ben moi je suis parnéen, exactement.
Oui.
Parnaien ça grimpe.
Donc parnaien ça grimpe beaucoup tout le temps, avec des moments de plat, de descente, de remontée. Donc je dirais que mes terrains de footing sont suffisants pour préparer avec le dénivelé.
Puis t'as peut-être une maison à étage, donc tu.
Exactement. Parce que je peux reconnaître la voix de Fred.
Ouais, ouais.
Et tu vas de temps en temps au cinéma. Donc...
Voilà.
Parce que moi, l'an passé, je l'ai préparé en tant que bon shampoing. Bah, bon champ, c'est un peu la boule. Hein.
Ouais.
C'est tout plat. Tout...
Ah non, bah, va du côté de la déchetterie, tu verras.
Ah, bon, attends, que tu parles, ça monte nulle part. Mais c'est vrai qu'il faut s'en cogner dans ton entraînement. Là. Alors, si t'es sur un entraînement d'un marathon plat, est-ce que là, tu t'es quand même infligé des séances de côte, Guilherme?
Non, pas plus que ce que je fais au quotidien à Parnaie. J'ai plutôt essayé de travailler la vitesse à plat par rapport au marathon. Et en fait,
ouais.
C'est un passage. C'est un passage obligé moi, pour moi dans ma saison de coureur, le Urban Trail, pardon. Donc si je suis prêt, tant mieux. Si je ne l'ai pas préparé spécifiquement, c'est pas grave. Ouais. L'idée, c'est d'être présent. Donc ça, c'est cool.
T'as bien raison, Fred.
Bah, je suis assez d'accord avec Guilherme dans le sens où on voit souvent les anciens vainqueurs. C'est des gars qui ont en général brillé une semaine avant aux écluses et donc n'ont pas forcément préparé de manière très très spécifique. À partir du moment où tu t'entraînes toute l'année, tu fais des côtes toute l'année, etc. Tu sais que tu pourrais optimiser l'entraînement par rapport à ce type d'activité.
Ouais.
Mais je pense que les gars, ils y vont sur la forme du moment, quoi.
Ouais, mais tu sais, moi, j'en vois comme même pas mal, parce que nous, pour le coup, sur Laval, ça grimpe, hein, par moment, pour aller sur Décathlon ou des choses comme ça, là, quand tu prends, quand tu prends des quais, ça grimpe pas mal. Et tu vois pas mal de gens qui sont dedans, en train de taper dedans.
Ouais,
en train
je crois pas que ce soit ceux qui sont dans les 10 premiers.
Ah bah, je dis pas ça, je dis pas ça, je te dis des gens qui s'entraînent, je trouve ça plutôt sympa, Lionel.
Ouais, je vais demander à Guilherme si l'objectif c'est plutôt le marathon de la boule. Est-ce que tu peux craindre les blessures ou est-ce que tu vas te ménager sur, en termes d'efforts sur ce Urban Trail?
J'aurais peut-être un regard plus attentif dans les petites ruelles sombres où il y a des escaliers où ça peut glisser, surtout si, je le répète, il pleut demain.
Oui.
Mais sinon, l'idée c'est de faire, on calcule pas en fait, il doit y avoir 10 ou 11 kilomètres demain, je sais même pas, je connais pas le parcours.
Ah oui.
Bon, l'idée c'est de pas trop réfléchir et puis de faire le max, quoi.
T'es plutôt peinard à ce niveau-là en général, toi. Et c'est fort, ça, Guilherme, c'est fort. Ce sera ta combienième édition, tu dis alors, toi?
Eh bien, écoute, il n'y a pas eu d'édition en 2020 et 2021.
Ah ouais.
En 2023, j'étais blessé au mollet, donc je n'ai pas pris le départ, mais j'étais bénévole à la consigne. Et donc, je crois, si je ne me trompe pas, que ça fait 2, 4... Ça sera mon 7e départ.
Eh ben, t'es peut-être dans les très bons, dans les légendes. Alors, les légendes de ce lutte, comme on appelle ça ici, évidemment.
Et est-ce que t'as une appréhension sur le parcours avec la nouvelle organisation, Guilherme? Tu penses que ça va changer ou ça va... T'as des échos déjà?
Je crois pas. Après, le parcours étant en centre-ville, probablement des endroits qu'on va retrouver peut-être avec plaisir. J'ai entièrement confiance en la nouvelle orga, puisque... je crois savoir qu'on a un trailer émérite, Jérôme Garnier notamment, qui est avec sa compagne dans la nouvelle équipe de bénévoles. Donc moi, je leur fais entièrement confiance pour nous préparer un parcours aux petits oignons. Et puis je crois que la passation avec l'ancienne équipe, c'est plutôt bien passé. Donc je crois que ils devraient pas nous décevoir demain soir.
Non, aucun doute, Lionel. Et on finira là-dessus.
Avec toutes ces années, toutes ces participations, tu as vu une évolution. Tout le monde a vu la qualité de cette Urban Trail qui allait mieux avec plein de surprises. Est-ce que justement tu t'attends peut-être à des surprises? Ils sont presque obligés de proposer des surprises. C'est ce que faisaient souvent l'ancienne équipe.
Oui. Alors, le vrai tour de force pour moi de l'organisation précédente, c'est d'avoir réussi à garder l'esprit de la première édition où on n'était pas très nombreux, où on était 500 ou 600 sur la ligne de départ, et d'avoir réussi tous les ans justement à provoquer ça, ces surprises, et garder l'état d'esprit du trail alors qu'on était finalement, je crois, l'année dernière 1300, un peu plus de 1300 au départ. Et ça, c'est vraiment le gros point positif.
Et sachant qu'on court à peu près sur 2 ou 3 km carrés, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils nous font tourner, retourner, ainsi de suite, et découvrir un paquet de nouveaux petits endroits tous les ans, je trouve ça extrêmement fort. Ouais. Merci Guillaume pour ce petit moment Urban Trail. On te souhaite évidemment le meilleur pour demain soir, et puis quand vous entendrez l'émission, vous saurez peut-être que Guilherme Rocher, regardez le journal, a peut-être gagné cette année, on ne sait pas.
Bravo Guillaume.
Bonne course.
Allez, bravo, sois fort. Merci. Merci. Alors messieurs, nous on continue parce qu'on a beaucoup de choses à se dire sur le... Et je vous dis, l'émission est réduite. Vous riez, Gilles Boiler. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes taquin.
Non, ne perdons pas de temps. Chose.
C'est la technique qui te...
Un peu de championnat du monde de vélo, les gars.
Oui.
Parce que la grande question, alors je pense que vous le savez tous déjà, c'est Pogacar qui a gagné comme l'an passé. Ouais. Pogacar qui est en train de vampiriser à la manière d'Eddy Merckx, que j'avais appelé moi à l'époque le cannibale.
Jamais entendu ça comme terme, mais pas mal, bien trouvé.
Et la question du moment est est-ce que Pogacar est en train de vouloir marquer l'histoire, ou vous pensez que pas du tout, le mec il fait ses courses, il gagne ce qu'il peut gagner, et l'histoire il en a rien à cirer, Lionel?
Oui, juste parce que j'ai envie de parler, à poser une question à Fred, parce qu'on parle de Merckx, et je voudrais savoir si à l'époque il avait été également champion du monde de contre-la-montre.
Ah, il n'existait pas le championnat du monde de contre-la-montre.
Il n'existait pas, donc c'est pas facile, parce qu'on va peut-être parler
première édition du contre-la-montre en championnat du monde, ça doit être de mémoire 95 ou 96.
D'accord, parce que il a pas. Voilà, non. Le petit bémol, c'est le.
Et Eddy Merckx n'a jamais gagné une course au Rwanda. Et ça, je pense, ça va faire la différence avec.
En Afrique, je pense.
Donc on adore Gilbo.
Qu'est-ce qu'il cherche, Pogacar, là? Parce que c'est quand même. Enfin, ça n'existait plus, ce profil-là. Le mec, il va faire toutes les Flandriennes, qui va va faire tous les Ardennaises, qui va faire tous les monuments de la saison, qui va gagner les grands tours et ainsi de suite. Ça n'existe plus, ce profil. Est-ce que ce mec est là pour marquer l'histoire? Est-ce qu'il est là pour écœurer l'adversité? Ou est-ce qu'il est là, pour l'instant, il ne réfléchit pas à tout ça? Il fait ses courses.
C'est, faut lever la main, mais bon, c'est pas grave.
Oui, c'est Fred.
C'est les deux, en fait, parce que effectivement, il est là pour marquer l'histoire, il le sait.
Tu penses qu'il. Tu crois qu'il y pense?
Oui, clairement.
Je crois qu'il l'a dit.
Maintenant, oui.
Ouais.
Il l'a dit.
Je pense qu'il y a toujours pensé. Après, tu ne peux pas l'affirmer quand tu n'as encore rien gagné ou très peu gagné. Ouais. Maintenant que tu domines tout et puis que tu vis un palmarès phénoménal. Bon, maintenant il est là, il coche effectivement les courses qu'il a pas encore gagnées, qu'il souhaiterait gagner, parce que il veut tout gagner. Mais il a raison. Quand tu peux, faut y aller aussi. Mmh. Il est en pleine force de l'âge. Mmh. Et puis, il a montré quelques signes quelques fois. Il peut aussi être marqué par l'usure mentale. Une forme de pression aussi, parce que le fait de vampiriser, alors Merckx a connu ça à son époque aussi, tous les grands champions ont connu ça, c'est que t'es très content, le gars il gagne, il est frais et tout, c'est super, mais au bout d'un moment, comme c'est toujours lui qui gagne, ça fatigue les gens, il y a de la suspicion, faut qu'il arrête d'écraser les courses. Et d'un autre côté, pourquoi se gêner quand t'es en capacité de gagner? Quand t'es le plus fort, tu te dis, tu vas peut-être pas freiner pour que le camarade y passe, alors que moi je suis en capacité de le faire. Donc c'est toujours délicat.
Et sur dimanche dernier, Fred, et je te laisse la parole, Gilbo, ensuite, sur dimanche dernier, t'as l'impression, toi, que quand il fait son écart de 1 minute 30, 1 minute, ça se stabilise autour d'1 minute 10, 15 pendant très longtemps. Mmh. Est-ce que tu penses qu'il arrête d'appuyer, justement, pour que le spectacle continue un peu? Ou est-ce que non, il est.
C'est vrai que la course de dimanche est très spéciale, parce qu'en fait on se dit il attaque à 100 km, ouais. C'est n'importe quoi. Mais en fait il attaque à l'endroit où il pouvait décrocher Evenepoel. Il y avait une seule fois une très très longue montée, puisque après c'était que des tours en circuit. Ouais. Et là où il pouvait faire la différence, c'était à 100 et quelques kilomètres. Donc il a attaqué là où le terrain était le plus favorable pour lui. Ça a bien fonctionné, mais derrière il fallait assurer les 100 et quelques bras.
Oui, tout seul. Hein.
Il a été fort, mais je pense qu'après non, il a pas arrêté d'appuyer. C'est surtout que l'autre était très fort derrière aussi.
Costaud, ouais.
Donc je pense qu'il pouvait pas se relâcher. Après, c'était assez intéressant de voir le jeu tactique, parce qu'on voyait bien qu'à chaque fois qu'il y avait notamment la côte pavée, on sentait qu'il en mettait une grosse couche là, parce qu'il est un peu meilleur sur les pavés qu'Evenepoel. Donc à chaque fois, il reprenait 10-15 secondes à ce moment-là, et on sent que l'autre qui faisait des gros efforts sur tout le reste du circuit, ça le minait aussi, quoi, parce que il revenait sous la minute, et puis dès qu'on attaquait les pavés, il remontait au-dessus.
C'est passionnant. Gilbo, tu retrouves le cycliste de ta jeunesse, c'est comment là?
Non, mais je voulais savoir, parce qu'en fait, Djoko, lui, on sait que lui, il veut choper le 25e Grand Chelem pour marquer l'histoire.
Ouais.
Mais Pogacar, en fait, il a déjà marqué l'histoire. Mais qu'est-ce qui lui manque, en fait, des Tours de France?
Il manque le Tour d'Espagne, il n'a pas le Tour d'Espagne.
Tour
d'Espagne, et puis il veut aller chercher San Remo et Paris-Roubaix.
Et puis deux Tours de France, il sera à 5, il faudrait qu'il passe à 6.
Non, il est déjà 4, il a 4, donc il reste plus que 2 à faire.
Il
faut qu'il aille gagner l'Espagne.
En concurrent, il l'a fait combien de fois, la Vuelta?
Il l'a au moins fait une fois.
Ouais.
C'est le moins prestigieux, donc il ne court pas spécialement.
Aussi, c'est pas terrible.
C'est en fin de saison.
Mais il suffit qu'il s'inscrive.
Surtout lui, ce qu'il veut aller chercher, c'est Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Après, si on compare les victoires, Merckx c'est 500 et quelques victoires, quand Pogacar il est qu'à 200. Et il n'atteindra jamais les 500. Donc il faut qu'il ait les plus prestigieuses. Et la concurrence est différente aussi.
Et le Tour de France, les 6.
Ouais, c'est ça.
Il y a Armstrong, mais bon, ça n'a pas compté.
Ce qui est barge, c'est qu'on te dit, on arrive à te dire, pour lui chercher des petits soucis ou quoi que ce soit, ce n'est pas un coureur de grand tour. Ah ouais? Ah bon? C'est plutôt un chasseur de classiques, il adore ça et les machins. Oui. Il est pas, les grands tours, ça le lasse. Mais le mec, force est de constater qu'il gagne tout et peut tout gagner. Je pense qu'il faut arrêter de trouver des bémols là où ils n'existent pas. Le mec, c'est l'immense champion, c'est le cannibale du moment.
Puisqu'il change beaucoup par rapport à ces deux dernières décennies, c'est que lui va affronter les autres sur des terrains qui lui sont pas favorables. Ouais. Aller jouer Paris-Roubaix face à Van Der Poel. Il y a beaucoup de coureurs qui auraient dit il y va, affronte. Moi je trouve ça assez génial. Être face à Evenepoel, c'est jamais bien goupillé sur Liège-Bastogne-Liège. Ils ont jamais rarement été tous les deux en super forme en même temps. Mais ils s'affrontent. La preuve sur le contre-la-montre du mondial, il va face à Evenepoel. Et d'ailleurs, il prend une petite gifle à Pogacar. Alors qu'il aurait pu rester au chaud et se dire. Moi je trouve ça sympa.
Il pense à gagner.
Ouais.
Exactement. On se bouscule là au studio. Il y a plein de monde qui nous appelle, plein de réactions qu'on veut avoir. La petite page vélo, on est fan de la page vélo.
Il y a Pogacar qui appelle dans.
C'était la semaine passée, évidemment. On a Nico maintenant avec nous. Salut Nico.
Ah. Salut les gars, comment allez-vous?
Oh Nico, ah,
salut. Oh, Nico. Et quand Nico,
le mec très heureux.
Et quand Nico là, enfin quand Nico est là, quand Nico est là, on parle de, on parle
Paris.
De quoi les gars? On parle de Paris.
Paris.
On parle Champions League. On est désolé hein, pour les transitions. On va vite, on est bon, c'est sport épique, il y a de l'ambiance. Mais là, on a une semaine de Ligue des Champions. On est obligé d'y passer. On est obligé d'y passer. Ouais. C'est grande semaine française.
Ah, oui.
Grande
ah,
semaine
oui.
française.
Comme
les,
rare.
Les
comme
fameux
rare.
Points, comment on les appelle? Les points.
Ouais. Ouais,
on fait un tabac. Nico, comment t'as passé cette semaine et plus de manière plus précise sur ton mercredi là.
Bah ouais, en Ligue des Champions, franchement, les équipes françaises vraiment, elles ont fait plaisir parce que bah ouais, entre Monaco, Marseille et Paris, c'était vraiment un régal. Et
tout passe.
Ça met l'honneur sur la Ligue, hein, donc tant mieux. Franchement, ça fait plaisir.
Tout passe et tu sais, bon, alors le match, il y a beaucoup d'émissions évidemment qui en ont déjà parlé. Moi, c'est plus sur maintenant ce que Paris engrange comme émotion derrière, ce que provoque comme émotion chez l'adversaire. Tu sens plus, il y a cette panique totale. Quand Paris arrive sur un terrain, ils sont plus du tout en panique et c'est l'adversaire qui prend un petit peu cette panique.
Et
ce qui était absolument pas le cas avant. Et là, ça a presque été flagrant sur le terrain.
Ah, il y a un vrai respect. Il y a un vrai respect
putain,
aussi.
Barcelone,
quoi.
C'est Barcelone quand même.
Bah, là, c'est la remontada.
C'est oublié. Ouais, c'est oublié.
C'est
ça
oublié.
Nico, tu le sens ce truc que vous êtes beaucoup plus respecté maintenant.
Exactement, parce que il y a quelques années, quand on perd 1-0 et sur une passe en plus perdue de victoire.
Oui.
Une fois n'est pas coutume.
Oui.
Normalement, on a vu le bouillon que nous ont fait les 20-30 premières minutes où on voit dès les premières actions de la Mini-Amal, on se dit, oula, ça va être long.
Oui.
Très long. Et au final, non, mentalement, ils nous ont impressionnés. Enfin, moi, ils m'ont impressionné. Je me suis dit, bon, bah voilà, ils restent sur la lignée de l'année dernière, le leadership de l'année dernière. Et comme quoi, c'était pas, comment dire.
Un feu de paille.
T'as pas paniqué,
non,
Nico.
Pas un coup de chance, c'était pas un coup de chance, voilà, ouais. Exactement. Ouais. Et puis surtout que moi, avant le match, je signais pour un match nul. Hein. Je me dis, si on fait un match nul,
les
petits jeunes qui vont être alignés, je prends.
Même à la mi-temps.
Et même quand on est revenu un partout, je me disais, voilà. Et au final, après, au fil du match, tu te dis, mais en fait, on a la place. On voit que Barcola, il a plusieurs occasions qui ne va pas au bout. On se dit, mais au final, il y a la place de faire mieux encore.
Ouais.
Et après, on prend de plus en plus de confiance. Et puis la deuxième mi-temps, bah, on domine, on va dire, en termes de possession. Et malgré qu'il y a plusieurs fois où on aurait pu... être repris au score parce qu'il y a des arrêts sur la ligne de certains joueurs en première mi-temps comme en deuxième mi-temps. Donc c'est un match au point, mais au final, on a su après les mettre dans les camps.
Ouais, les Gilbeaux.
Bah, toujours l'éternelle question. La faiblesse de Barcelone, quand même assez impressionnante en défense. Quoi. Mmh. Après, comment on peut mesurer ça? Difficile. Quoi. Moi, j'ai vu que la deuxième mi-temps. J'ai pas vu Barcelone.
Ouais, mais chacun joue avec ses forces, Gilbeau. Et c'est vrai que Paris, ils ont quand même deux arrières latéraux. Enfin, je ne sais pas si c'est deux arrières, d'ailleurs.
C'est
ce qui se joue au monde. Et effectivement, Mendes, il dormait les 10 premières minutes. Voilà. Il s'est fait enrhumer. Puis à partir du moment où il a fait une intervention sur Yamal dans la surface.
Magnifique.
Bah là derrière, je sais pas, ça a dû les deux fils qui se sont touchés, ça y est, il s'est réveillé.
Incroyable.
Et puis bah derrière le dragster et avec une tu le vois, il a bah, ça c'est la à la démêlée un peu, le gars, il a l'air tout gentil et tout, sauf qu'il fait des différences phénoménales.
Et je sais pas,
c'est génial quoi.
Je sais pas si t'as entendu ça Nico de ton côté, que Enrique quand il a pris les commandes de l'équipe, ça fait combien de temps maintenant
c'est la troisième année là.
C'est la troisième année. Mmh. Il a exigé que les joueurs ne soient plus sur un poste fixe, qu'ils soient tous capables de doubler, alors pas qu'il y ait deux personnes par poste, mais que chaque joueur soit capable de jouer à deux postes, et voire plus. Et là, quand vous me parlez de Mendes, quand vous me parlez d'Hakimi,
les mecs,
tu regardes les feuilles de match, bah parfois ils sont ailiers sur la feuille de match du départ, parfois ils sont latéral.
Moi j'ai hâte qu'ils les testent dans les buts, parce que c'est le seul poste où on sait pas s'ils peuvent jouer ces deux gars-là, mais le reste, ils peuvent tout faire.
Mais est-ce qu'on n'est pas, Nico, là, dans une petite révolution du foot, ou alors simplement du PSG, qui est en train de révolutionner lui tout seul le football là sur ces histoires de place là?
Bah si, c'est sûr que Luis Enrique avec ses idées au départ il a mis du temps à ça puisse se mettre en place sur le terrain parce qu'après il y avait encore Mbappé et tout etc. Mais c'est vrai que ouais quand on voit Mayulu impressionnant, c'est quelqu'un qui peut je sais plus qui c'est qui sort, le gars il redescend en milieu en milieu relayeur, tu dis
ouais.
Quand même, alors que le gars il a joué quand même attaquant toute la partie, il a marqué un but, donc tu dis non, comme tu dis, il a révolutionné un petit peu certains postes et il fait en sorte que les joueurs soient polyvalents et donc les dépassements de fonction comme le bien connu. Donc, tant mieux pour nous, c'est incroyable.
C'est...
Quand tu te dis qu'il y avait trois jeunes sur le terrain, sans compter Zaïre Emery, hein, il y avait les trois petits, dont un, c'était le pro, il a joué son premier match en Ligue 1 juste avant, il joue après, il rentre en cours de match et il joue son premier match en Ligue des Champions et puis il fait un match de malade.
Et il est fort, Lionel.
Oui, mais j'allais rebondir là-dessus, c'est vrai que là où ils sont très forts, là, le monde qu'ils font rentrer du centre de formation, et quand ils font un recrutement, mais c'est une perle. Je pense à Gavalny, là, c'est comme ça qu'on dit, l'Ukrainien, là.
Navalny.
Non, c'est
réfugié.
Mais il est extraordinaire, ce défenseur. Il est extraordinaire.
Très fort aussi. Très, très fort. Est-ce qu'à l'arrivée, c'est pas peut-être le Paris FC qui a tout compris? Puisque moi, j'avais compris que la politique, c'était prendre que du jeune de la région parisienne parce qu'il y a pépite sur pépite là-bas. Et parce que quand on voit là ce qui est en train de sortir au Paris Saint-Germain, bah, tu dis, c'est pas possible. Et ils vont nous en sortir combien comme ça, des jeunes? Enfin, ils ont les cannes, ils ont tout compris, ils sont intelligents.
Après, là, c'est vraiment l'image du Barça. C'est que vrai. Les jeunes y rentrent, mais ils sont super bien encadrés. Ils ont des mecs intelligents à côté. C'est pas du n'importe quoi. T'es vraiment. Ça doit être génial.
Ce lien avec le Barça, oui.
Tu sens ça, tu sens que. Ouais.
Ouais. Est-ce que ça ressemble un peu au centre de formation de Rennes, Gilbo, là?
Non, c'est encore en dessous.
Est-ce que Nico.
Quand il y aura un ballon d'or sorti par le PSG,
est-ce que Nico, en tant que bon parisien, évidemment, toi, tu as complètement éteint ta télé mardi ou est-ce que t'as regardé aussi quand même l'OM, ce très gros club à l'étoile sur la poitrine?
J'ai regardé l'OM, j'ai regardé Monaco, on pouvait pas parce que c'est en même temps, mais ouais, si, Marseille, j'ai regardé le match. Ouais.
Propre, efficace,
belle équipe.
Bah, ils sont restés sur la lignée de ce qu'ils ont fait contre le match du PSG, donc.
Ils ont une défense,
de l'énergie.
Et ils ont ils ont fait des recrutements intelligents aussi avec des gars d'expérience.
Un bon gardien.
Et le gardien, franchement, pour moi, c'est va être le gardien de la saison en Ligue 1 déjà, du moins. Mais non, mais complètement, et ça fait honneur, c'est bien par rapport aux dernières campagnes qu'ils ont fait où c'était plus
compliqué.
Des zéros pointés.
Et quelle ambiance!
Tant mieux de voir le football français.
Et dans quelle ambiance? 65 000 personnes.
Mais c'est ça, Lionel. Et tu sens que cette ville, elle demande qu'un truc, c'est de se réveiller. Et positivement, évidemment, grâce au foot. Et ça peut devenir un truc de dingue avec ce grand Paris. Et si on arrive à reconstruire un grand Marseille, ce serait une dualité fabuleuse pour le pays. Fred?
Ouais, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que l'évolution de Paris en un football collectif, en mettant en avant l'équipe, tu aperçois que ça tire tout le championnat.
Ouais.
Parce que Marseille, c'est hyper cohérent. C'est vrai que tu vois le match, c'est très intéressant. C'est pas une pauvre frappe les yeux fermés. Ça a de l'allure. Et tu te dis qu'en fait, à chaque fois qu'on a un modèle, tout le monde essaie de le copier. Et ça fait progresser tout le monde. Donc c'est plutôt très, très intéressant.
Tu veux dire qu'on va peut-être sortir de 98 et de tout le monde derrière, et ainsi de suite. De Deschamps. Deschamps va partir l'année prochaine.
Ceci étant, tu vois les dernières sorties d'équipe de France, on a déjà des joueurs un peu plus créatifs et tout.
Et Deschamps est
C'est peut-être générationnel aussi. Il faut aussi avoir les joueurs qui peuvent le faire. Donc, mais c'est... Au moins, on prend du plaisir. Tu vois les matchs, que tu sois pro-marseillais, pro-parisien, etc., tu t'embêtes pas devant ta télévision. Quoi.
Nico, c'est quoi ton match après, votre prochain adversaire?
Alors là, je ne sais même pas.
Tu sais pas. Bon, en souhaitant...
Je ne sais pas, mais par contre, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on gagne quand même sans nos trois titulaires habituels. Varane, Doué et Dembélé, le ballon d'or. C'est incroyable de gagner à Barcelone sans ces trois titulaires.
Et on sait que Zaïre Emery, l'année dernière, qui a annoncé la future pépite et ainsi de suite, blessure, et disparaît un petit peu de tous les radars. Là, tu te dis qu'il ne faut pas se blesser non plus, hein, parce que derrière, ça pousse et à tout moment, tu peux sauter. Mm-hmm. Et ça doit te foutre une pression dans le club quand même. C'est solide.
Et Nico,
Zaïre Emery, il a attendu au tournoi un petit peu parce que c'est vrai qu'il pêche un petit peu là, ces derniers temps, et donc il a la place pour s'exprimer. Donc il faut vraiment qu'il a déjà relevé le niveau par rapport à Marseille, où Marseille il avait coulé un petit peu. Et donc là, ça fait plaisir de le voir aussi en meilleure forme hier et avec une meilleure prestation.
Et le banc aussi, avec l'entrée de Kangigli et Ramos, là, c'est quand même...
Kangigli et Luca Hernandez, faut pas oublier. Le choix était intelligent. Enfin, moi, je voyais pas du tout. Je croyais que comme il avait déjà un jeune, Mendes, c'est lui qui allait sortir. Il l'a mis en milieu gauche et Luca Hernandez, après, il a fait le job. Donc l'expérience derrière... Et Ramos, en tant que tueur, c'est ce qu'on attend de lui. Et donc, voilà, quoi.
Donc Marseille ira au Sporting du Portugal.
Ah, merci, merci Gilbo, là, notre documentaliste. Ouais, merci Nico, super, petite page PSG, ça fait toujours plaisir.
Merci de vous avoir eu à tous.
Ouais, carrément.
Salut Nico.
Salut Archie.
Quand tu veux, mon ami,
ciao.
Évidemment.
Ciao.
Allez, à bientôt. On va enchaîner, les gars, dès que je vais appeler. Qu'est-ce qu'il y a, mon Lionel? Tu fais des gestes, tu fais des gestes.
Parce que la pause musicale.
Tu t'énerves. Mais tu crois qu'on a le temps pour
mais
ça?
Oui, mais oui,
ça c'est sympa, là. C'est compliqué, non, cette technique. Il y a un patron ici. Pas besoin. Lionel, Gilbo, plutôt le spécialiste de voile, à bord, ça se passe comment? Il y a un capitaine.
Il y a un capitaine et un seul homme qui décide.
Il y a un capitaine.
C'est comme
terminé,
à la radio.
Terminé.
En pleurs dans une ville en pluie, et moi qui cours après, et moi qui cours après au milieu de la nuit. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délaissée et qui veut me faire croire qu'elle va se noyer. C'est de quel côté la Seine? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'elle me reproche? Qu'est-ce qui lui a pris? Lorsque je l'ai trompée, elle l'a jamais appris. C'est pas elle qui s'approche. Tu m'aimes vraiment, dis-moi. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. C'est tout ce qu'elle sait dire. En bouffant, en me rasant, quand je voudrais dormir, faut lui dire que je l'aime. Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie. Où est-elle, nom de Dieu? Elle a dû remonter par la rue de Rivoli. J'ai de la flotte plein les yeux. Parce qu'elle avait rêvé je ne sais quel amour absolu éternel. Il faudrait ne penser, n'exister que pour elle, chaque nuit, chaque jour. Voilà ce qu'elle voudrait, seulement il y a la vie, seulement il y a le temps. Et le moment fatal où le vilain mari tue le prince charmant. L'amour, son bel amour, il ne vaut pas bien cher contre un calendrier. Le battement de son cœur, la douceur de sa chair, je les ai oubliés. Où donc est-elle partie? Voilà qu'il pleut des cordes, mon Dieu, regardez-moi. Me voilà comme un con, place de la Concorde. Ça y est, je la vois.
Enchaîne, évidemment, on n'a pas le temps, on doit rendre l'antenne dans 10 minutes. Tu crois quoi, bon Lionel? C'est la panique à bord. Tu restes à ta place. C'est tout, c'est comme ça. Qui t'aurait pu dire rapidement, messieurs, l'état d'esprit, on le garde évidemment, c'est-à-dire que c'est pas forcément la phrase du mec, mais ça correspond à peu près. On a essayé de garder l'esprit des créateurs de l'événement, des monuments.
La Valuvarne Trail, la nouvelle équipe.
La nouvelle équipe, bravo, c'est déjà un point. Réveillez-vous les autres, je veux pas ce Fred là qui c'est pareil, c'est le cannibale de l'émission.
Le Pogacar ou le maire, c'est un peu les deux.
Au lieu de me dire là ce que je dois faire ou je peux pas faire, réponds aux questions.
On est une équipe, on est une équipe.
Bon, faut pas que j'appuie trop, sinon on va encore me suspecter de
Pogacar.
Voilà, vous voyez, vous avez déjà eu des indices auparavant de machin. Et ensuite, un petit dernier, peut-être pour Gilbo. J'ai beau mettre les Bister Quattro, ça gagne encore, c'est plus très intéressant.
Je ne sais pas.
Bah, c'est toujours Luis Enrique. Non, il met l'équipe qu'il veut.
Il est quoi? Il est plus futé que vous?
Je crois que force est de constater. Non, c'est une équipe. Là. C'est aussi un groupe, hein, l'autre radio.
C'est aussi un
j'ai
groupe.
J'ai rien compris la question. Non, mais...
Ça sent dans vos yeux, les mecs, quand vous pigez pas.
Mais non, la radio, c'est pas.
Mais la même question en français, ça doit être plus simple.
Mais c'est pas les questions, en fait.
Fred, il a pas compris, mais bon.
Ça viendra, les gars, dans 2-3 ans. On joue aux enchères, messieurs. Vous êtes capables de citer combien de sportifs mayennais qui ont participé aux JO? Je dis pas médaillés, forcément, je dis ont participé.
Alors, au dernier JO ou au JO tout court?
Non, au JO dans l'histoire des Jeux Olympiques.
Oh là là.
Oh là.
Non,
deux,
oh là là, c'est
trois,
pas une
deux,
réponse.
3.
Ouais, 2, 3. Qui est mieux que 3?
Non.
On est 3 avec Fred?
Ouais.
Ah ouais, d'accord. Je pensais que vous alliez un peu plus cartonner que ça. On
ah
y
bon
va. Fred, c'est toi qui prends l'enchère.
Eh ben, Manuela Mondebrun.
Ouais.
Gabriel Bordier.
Ouais.
Et puis.
François Pervy.
Ouais, par exemple, on a aussi notre cycliste, cette petite jeune cycliste,
oui,
tu vois à qui je fais référence.
Oui.
Et notre plus ancien cycliste qui est venu nous voir, Marcel Duchemin.
Eh ben voilà, ça fait beaucoup de ça.
Ouais, je les avais.
Heidi Gauguin,
voilà, c'est bien les gars.
Ça fait 4.
Vous avez oublié.
On a dû en oublier. Ouais.
Du lourd. Patron de la FDJ.
Jean-Claude Boutier.
Marc Madiot, qui a fait les JO en 80. En 80, il a fait les JO.
80, c'était à
Moscou, 80. Ah là, les gars, il faut connaître tous ces JO, ces bio JO. Ça, c'est une obligation. Bien, autre enchère, les gars. Alors, qu'est-ce que je vous propose d'autre? Parce que j'ai bossé quand même. Footballeurs mayennais qui ont des caps en équipe de France.
Alors, mayennais qui sont passés par la Mayenne ou qui sont mayennais d'origine?
Qui sont mayennais, qui ont joué un peu quand même par chez nous.
Ah oui.
Et qui.
Enfin, qui sont.
Qui parlent.
Deux.
Ouais, moi j'ai aussi.
Chez Gilbo. On y va là-bas, Fred.
Ah bah, j'ai Jean-Pierre Tempé.
Non, mais attends, t'as pas dit combien tu voulais.
Ah, j'ai dit deux.
Bah, deux c'est nul. Deux c'est Gilbo pour l'instant.
Ouais. Pas mieux.
Ah,
attends,
ouais, les gars,
bah trois.
Alors.
Ouais, trois.
En capé en A. Ou capé.
Bonne question.
Parce que
question.
Si c'est autre, j'ai plus que ça.
Ouais, il y a droit à des.
4.
Alors si, ouais,
4,
j'ai.
4.
J'ai bon. Bah, je vais 5, moi.
J'aurais bien aimé.
Ouais, vas-y, bah, j'y joue un peu.
Tu complèteras.
Ouais.
Donc, j'ai Moukielé.
Ouais, tout à fait, ouais.
Ouais.
Bien.
J'ai De La Montagne.
Ouais.
Ouais, alors lequel?
Oh, ah, le grand.
Ah bah,
Patrick.
Ouais, Patrick. Alors, il était plus à Laval quand il a eu ses caps. Hein.
J'ai Ousmane Dabo.
Oui, Ousmane Dabo, ça c'est excellent.
J'ai Tempé.
Ouais, Jean-Pierre Tempé.
Fort.
Ouais.
Et j'ai dit 4 sur 4, donc j'ai gagné.
Alors en jeune, bah, t'as Bertrand Roseau, hein, puisque le champion d'Europe espoir 86, il est gagné sur un but 1-0. L'équipe de France, c'est Bertrand Roseau qui marque, notre arrière droit.
Fort.
C'était
très
l'équipe,
fort.
C'était époque Stéphane Paille, etc. Hein, donc c'était énorme, Bertrand Roseau.
Cantona.
Il y a du Kéruzoré, les gars.
Bah,
Kéru.
Il y a François Brisson qui a été champion olympique 84. Avec l'équipe de Daniel Zverev, etc.
Et Thierry Goudet.
Et Thierry Goudet,
il fait du militaire ou qui fait des choses comme ça. Là.
Et vous oubliez un champion du monde.
On oublie un champion du monde.
Franck Leboeuf,
ouais. Qui a explosé à Laval.
Si, c'est bien.
Qui a explosé à Laval.
Ouais,
mais
c'est
bon,
Leboeuf,
c'est des gens qui sont passés par Laval. C'est vrai que tu voulais dire pas forcément mayennais, quoi.
C'est très bien, c'est très bien.
Non, oui.
Bravo les gars. Qu'est-ce qui arrive bientôt là en Mayenne, messieurs, sur la fin du mois?
Sur la fin du mois. Ah non.
Non.
Je crois qu'il y a un petit peu d'escalade.
Il y a de l'escalade. Ouais, il y a de l'escalade. Et pour ça, évidemment, on a la patronne du département en escalade ou la vice-présidente. Mais nous, c'est pas grave. Pour nous, t'es la patronne. Nathalie Lorenzo, est-ce que tu es avec nous?
Alors Nathalie Lozano, oui.
Ah, j'étais pas loin.
C'est pareil.
Avoue que j'étais pas loin. Excuse-moi Nathalie. Bonjour à tous en tout cas, bonjour à toi en tout cas. Et Nathalie, c'est quand alors cette compétition-là?
Alors la compétition, c'est le 24, 25 et 26 octobre à l'Espace Mayenne.
Ouais.
Donc le 24 après-midi, on a les qualifications. Le 25, les qualifications para-escalade. Et le 25 au soir, ça sera les finales. Et le 26 après-midi, les finales également.
D'accord, donc là, ça te fait un week-end chargé sur, le... sur ce moment-là, disons.
Voilà, c'est un week-end 100% escalade.
Avec ce que vous savez faire parfaitement dans l'espace Mayenne, là-haut, là, la musique, les jeux de lumière, ouais. Et ainsi de suite.
Tout à fait, c'est ça. Des DJ, une mise en lumière, une mise en ambiance.
Donc, ouais, super.
Voilà, ça va être très sympa.
Et là, il y aura il y aura toutes les spécialités là, sur ce week-end-là ?
Alors, en fait, on a une Coupe du Monde para-escalade. Donc là, c'est la dernière épreuve du circuit Coupe du Monde. Donc, il y avait une première épreuve qui était à Salt Lake City aux États-Unis au mois de mai. Une autre épreuve qui a été à Innsbruck en Autriche au mois de juin. Et donc là, la dernière épreuve est à Laval, donc en para-escalade. Donc là, c'est de la difficulté.
Donc la difficulté pour les...
Ça crée le champion ou la championne du circuit en para-escalade.
La difficulté, excuse-moi, je te coupe, Nathalie, la difficulté pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment celle à laquelle on pense, c'est-à-dire avec les cordes.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est celle-là.
C'est on enfile le harnais et puis on monte... donc sur le mur, quoi, pour ceux qui le connaissent, notre mur international à l'espace Mayenne, le but du jeu, c'est de monter le plus haut possible. Donc en para-escalade, il faut savoir qu'il y a différentes catégories. On va avoir des déficients membres supérieurs, déficients membres inférieurs, des forces et mobilités limitées et des déficients visuels.
D'accord. Et tout ça, est-ce que c'est le système handicap de 1 à 8 et en fonction, ils sont notés ou non, c'est vraiment ceux qui sont handicapés des membres supérieurs sont ensemble et il y a des catégories comme ça ?
Ouais, normal. Alors, ils font des regroupements de catégories selon le nombre d'athlètes. Là, au jour d'aujourd'hui, on aura de toute façon, puisque les inscriptions sont terminées pour la partie para-escalade, on va avoir 175 athlètes de 25 pays différents. Mais il faut savoir qu'on aura du très très beau monde dans nos Français.
Ah.
Parce que la semaine dernière, il y avait le championnat du monde à Séoul. Et la France a eu quand même 4 médailles d'or et 2 médailles de bronze en para-escalade.
Ouais, on est solide. Est-ce que vous jonglez toujours, enfin vous surfez plutôt toujours sur la vague Jeux Olympiques ? C'est comment ? Parce que ça a été un tel succès ça sur les deux dernières Olympiades. Est-ce que les clubs sont pleins ? Est-ce que ça se passe bien pour vous ?
Ah oui, l'escalade malheureusement en refuse du monde. en l'occurrence à Laval, le club a refusé beaucoup de monde.
Ah oui.
Et puis, nous on était déjà, c'était déjà un sport qui était complet, qui était très demandé avant les Jeux. Je pense qu'il l'est encore plus.
Et oui.
Donc, malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais...
Eh bien, justement, essaye de rassurer nos sportifs lavallois et mayennais. Essaye de nous dire s'il y a une salle qui va se monter, même des salles privées. Je sais que ça se fait beaucoup maintenant. Ou est-ce que ça va être rénové un petit peu tout ça ? Parce que c'est vrai que la demande est dingue. On en connaît plein, nous, des gens qui sont sur des listes d'attente, là. Et est-ce que ça va s'étoffer un petit peu, là ?
Alors, il y a un beau projet. comme ça. Il y a un beau projet à Laval. Un appel d'offres qui est lancé.
Ouais.
Maintenant, c'est en très bonne voie pour que en fait la salle qu'on a au gymnase Jeff Lemoine à Laval,
oui,
soit refaite.
Ah oui, c'est un projet public.
En lieu et place ?
Comment ?
En lieu et place, c'est-à-dire au même endroit ou ailleurs ?
Oui.
Ah.
Oui.
D'accord. Ok. Bon bah très bien, nos grimpeurs mayennais, lavallois et du coin, parce que c'est vrai qu'on a de belles salles sur les patelins autour de nous, là on a de très très belles salles, mais Laval on est presque le parent pauvre et c'est dommage, donc on espère que tout ça va évoluer grâce à toi.
Ouais voilà, mais bon sur cette équipe para-escalade on a quand même des gens ligériens on va dire.
Ouais.
On a Elsa donc, qui était médaillée bronze qui s'entraîne à Nantes. On a Aloïse Potier qui était médaillé or, qui lui, alors il est normand, enfin licencié en Normandie, mais s'entraîne dans le 49.
Ouais.
Et on a une petite Bretonne, Lucie Jarrigue, qui est amputée jambe. Et qui a fait médaille d'or aussi au championnat du monde et qui s'entraîne en Bretagne. On a des voisins, on aura des voisins à supporter, donc on espère.
Parfait.
On espère que le public sera là.
Sera là. Il l'est toujours. Dis-nous.
Et parallèlement aussi, il y aura une coupe d'Europe de vitesse.
Ah oui. Oui. Ah. Donc là, comme on voit aux Jeux Olympiques, là, sur la voie.
C'est deux compétitions sur le, enfin même trois, parce qu'il y a une Coupe d'Europe de vitesse jeune et une Coupe d'Europe de vitesse senior. Donc là, la vitesse, ben, c'est tout bête. Hein.
Ouais.
Ils partent au top et c'est le premier arrivé là-haut.
Ouais, c'est ça, c'est 10 secondes à peu près. Hein.
Ah, moins que ça,
ouais, parce qu'on l'avait vu il y a quelques années.
Puisque le record mondial chez les hommes, c'est 4,74.
Incroyable.
Et chez les femmes, c'est 6,06.
Incroyable.
Donc voilà, il y a des records à battre.
Incroyable, ça va être encore un grand spectacle, évidemment. Sport épique suivra ça de près parce qu'on adore ça. On adore ça, suivre l'escalade. On adore un peu moins pratiquer parce que j'ai pas mal de trouillard sur le plateau. Mais à regarder, c'est vraiment passionnant. Et on souhaite que vous y alliez, bien cela, parce que vraiment, c'est un très très beau spectacle. Bravo à vous, les organisateurs. Merci pour ce petit moment escalade.
Merci beaucoup.
Et bien, rien. Et à très
bon
bientôt.
Alors.
Merci beaucoup. Merci.
On y sera.
Allez, nous, on s'arrête là, messieurs, dames. Vous avez tous compris qu'on était en léger différé, bien entendu. On a du monde derrière nous. On vous souhaite un très bon dimanche.
Ouais.
Pluvieux, apparemment.
Non,
c'est vendredi.
J'ai que des Lolo Cabrol avec moi. C'est super. Et nous, on se dit à dans 15 jours. On a de l'invité aussi. Dans 15 jours, on a de l'invité plateau. C'est Julien qui nous gère tout ça.
Et Julien, tu nous
vois. Julien, super. Allez, on se quitte là-dessus, messieurs-dames. Salut à tous.
Salut.